Bonsoir. 3 jours après l'attentat de Nice, la piste de la préméditation se précise pour le tueur qui aurait envoyé un SMS juste avant l'attaque évoquant des armes. Les précisions d'Olivier Bois au début de ce journal. Par ailleurs, il y a toujours 6 gardes à vue en ce moment même. 85 personnes sont toujours hospitalisées à Nice, dont 18 entre la vie et la mort. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est rendue au chevet des blessés ce matin. Le reportage de Mathilde Dehimi est à suivre. En Turquie, la purge de grande ampleur entamée depuis hier se poursuit. Plus de 6000 arrestations après le putsch raté de vendredi soir. Purge qui commence à inquiéter les défenseurs de l'état de droit. Nous rejoindrons à Istanbul notre envoyé spécial Hervé Toutain. Les quartiers rebelles situés à l'est d'Alep, désormais complètement assiégés par les troupes du gouvernement syrien. L'inquiétude grandit pour les 300 000 civils résidant sur place, avec des craintes de pénurie alimentaire, nous dira Nabila Hamel. Enfin, l'œuvre de Le Corbusier en enfin classé au patrimoine mondial de l'humanité, aboutissement d'un travail de plus de 10 ans pour Michel Richard, le directeur de la Fondation Le Corbusier. Nous l'entendrons en fin de journal. 6 personnes toujours en garde à vue à Nice après l'attentat de jeudi soir qui a fait 84 morts. Un couple d'Albanais a été interpellé ce matin, soupçonné d'avoir apporté une aide logistique à Mohamed Laouesh Boulel, le tueur de 31 ans abattu jeudi soir au terme de sa course meurtrière à bord de son camion de location sur la promenade des Anglais. Hier, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il se serait radicalisé récemment et rapidement. Et cet après-midi, les enquêteurs ont confirmé la piste d'un acte prémédité, Olivier Bois.
Premier enseignement de cette enquête, le tueur de Nice avait prémédité son acte. Le 14 juillet, le camion était réservé depuis 10 jours déjà, et puis il a repéré les lieux. La promenade des Anglais la veille et le jour même également. Le camion est vu sur le boulevard quelques heures avant le feu d'artifice. Deuxième élément, il a eu des complices, au moins pour acheter cette arme, ce pistolet de petit calibre avec lequel il a tiré sur la police. L'homme qui lui a vendu est en garde à vue. Mohamed Laouesh Boulel lui a même envoyé un texto quelques heures avant l'attaque pour lui demander plus d'armes. Mais à ce stade, rien ne dit que cet homme, ce trafiquant, avait connaissance des projets terroristes de son client. Reste dans cette enquête la question principale: comment est-il devenu un soldat de Daesh, tel que l'organisation l'a écrit dans son communiqué? À ce stade, toujours aucune revendication n'a été retrouvée dans ses affaires. Certains de ses proches en garde à vue reconnaissent qu'il parlait un peu plus de religion ces dernières semaines, mais sans évoquer Daesh. Alors s'est-il radicalisé tout seul ou a-t-il été pris en main, endoctriné très rapidement par d'autres djihadistes qui ont repéré en lui un homme fragile et manipulable? C'est la principale question que se posent aujourd'hui les enquêteurs.
3 jours après cette attaque, 85 personnes sont toujours hospitalisées. 18 d'entre elles sont entre la vie et la mort, dont un enfant. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est rendue au chevet des blessés ce matin à Nice, où elle a fait le point sur la prise en charge des victimes. Le reportage de Mathilde Dehimi.
29 personnes sont toujours en réanimation. Pour 18 d'entre elles, le pronostic vital est engagé, dont un enfant pris en charge ici à la Fondation Lanval, Marisol Touraine.
Il reste des enfants hospitalisés et malheureusement, il reste un enfant pour qui le pronostic vital est engagé. Et par ailleurs, une cellule médico-psychologique a été mise en place à la Fondation Lanval pour prendre en charge et les enfants et leurs familles éventuellement lorsqu'ils en expriment le besoin.
Les 5 cellules psychologiques ont accueilli déjà 500 personnes depuis le soir de l'attentat. 2 autres vont ouvrir aujourd'hui devant la chapelle ardente et sur la promenade des Anglais. Les 30 psychologues vont recevoir le renfort de 10 autres spécialistes. Le plus difficile reste ceux qui n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches.
Il reste une personne dont l'identification est en cours, qui est en bonne voie puisque tous les éléments permettant l'identification sont réunis. L'hôpital Pasteur procède aux dernières vérifications et donc à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a plus qu'une personne hospitalisée dont l'identité n'est pas encore formellement établie.
Les services de justice tentent toujours d'identifier toutes les autres victimes non hospitalisées. Tous les soins, sécurité sociale, dépassement d'honoraires y compris, seront pris en charge à 100% selon Marisol Touraine.
La France entamera demain, lundi, son 3e jour de deuil national. Décision rare avec seulement 6 précédents sous la 5e République. Deuil qui culminera avec la minute de silence à midi organisée partout en France. La promenade des Anglais rouvrira dans son intégralité juste après ce moment de recueillement. Par ailleurs, ce soir à 18h30, dans 25 minutes, une messe à la cathédrale de Notre-Dame de Paris est organisée. Plusieurs responsables européens préviennent le président turc Erdogan. Le coup d'État raté dans le pays vendredi soir ne doit pas être un chèque en blanc pour violer l'État de droit. Déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault ce midi. Dès hier, Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, avait appelé à l'équilibre des pouvoirs et des libertés fondamentales en Turquie. Le président Erdogan se sent ce soir plus fort que jamais et poursuit la reprise en main de son pays. Bonsoir Hervé Toutain.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Culture à Istanbul, des milliers de personnes ont été arrêtées au sein de l'armée et de l'appareil judiciaire depuis hier. Et le gouvernement dit aussi contrôler totalement l'économie.
Oui, tout à fait. Recep Tayyip Erdogan est bien décidé à pousser les feux de la purge. Difficile de connaître le chiffre exact des arrestations, mais officiellement, au moment où je vous parle, plus de 6000 personnes ont été interpellées. En majorité, vous l'avez dit, des soldats, des officiers, dont plusieurs généraux, mais aussi des juges soupçonnés d'avoir soutenu les putschistes. Le mouvement va se poursuivre, a prévenu le gouvernement turc, alors que le chef de l'État fustige le virus qui, dit-il, infecte l'État et ses institutions. Recep Tayyip Erdogan vise en premier chef son opposant numéro un, le prédicateur Fethullah Gulen, en exil aux États-Unis. Le président turc l'accuse d'être derrière les putschistes et demande son extradition. Pour maintenir la pression, Recep Tayyip Erdogan a demandé ce soir à ses partisans de rester mobilisés. On ne sort pas d'un putsch en quelques heures, a mis en garde le président turc. Et puis, pour prévenir cette fois tout risque sur la stabilité financière du pays, la Banque centrale turque promet de fournir des liquidités illimitées aux banques, le cas échéant.
Merci Hervé Toutain pour vos précisions en direct d'Istanbul. En Syrie, après des semaines de combats, l'armée de Bachar el-Assad assiège désormais complètement les quartiers rebelles de la ville d'Alep. La dernière voie d'accès pour l'approvisionnement des civils vient d'être coupée, Nabila Hamel.
Elle était partiellement coupée du reste de la Syrie et du monde extérieur. Alep l'est désormais totalement. Après des semaines de combats, les forces gouvernementales syriennes ont pris ce matin le contrôle de la route appelée Route Castello, située au nord-ouest de la ville. C'était le dernier axe que pouvaient emprunter hommes et marchandises pour entrer ou sortir des quartiers rebelles, notamment pour aller vers la Turquie voisine, ancienne capitale économique du pays. Alep, la deuxième ville de Syrie, était divisée en deux, avec des quartiers ouest entre les mains du régime et ceux de l'est sous le contrôle des groupes rebelles. Avec l'offensive des forces gouvernementales qui a fait une quarantaine de morts ce week-end, la ville est désormais assiégée à 100% avant même la prise de la route du Castello. Les habitants d'Alep souffraient de pénuries, les prix avaient flambé, les boulangeries ne fonctionnaient plus par manque de farine et de mazout pour faire fonctionner les fours. Aujourd'hui, les inquiétudes sont plus grandes encore pour les quelques 300 000 civils des régions sous le contrôle de la rébellion. Si les quartiers est d'Alep ne sont pas encore définis par l'ONU comme des quartiers assiégés, l'organisation internationale s'est pour le moment contentée d'appeler toutes les parties à autoriser la livraison de l'aide humanitaire et à permettre l'évacuation des civils qui le désirent.
Aux États-Unis, une nouvelle fusillade a éclaté à Baton Rouge, en Louisiane. Deux policiers ont été tués. Au début du mois de juillet, la mort d'un jeune noir abattu par la police dans cette même ville avait provoqué une vague d'indignation et de manifestation. Il a été l'un des architectes majeurs du XXe siècle. L'œuvre de Le Corbusier est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Parmi les 17 sites retenus, la cité radieuse de Marseille, la chapelle de Ronchamp ou encore à l'étranger, le complexe du Capitole à Chandigarh en Inde. C'était la troisième fois que cette œuvre architecturale était portée devant l'UNESCO pour reconnaissance mondiale à l'initiative de Michel Richard. Le directeur de la fondation Le Corbusier a évidemment accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie.
Avec le recul, c'est une belle histoire qui, au fur et à mesure qu'elle s'est construite, au travers des échecs, hein, parce qu'il y a eu des échecs, mais il y avait un tel lien qui s'était créé entre tous les partenaires concernés que on s'est dit que ce serait dommage d'abandonner pour des raisons technocratiques finalement, puisque c'était un peu ça qu'on nous reprochait, d'avoir mal ficelé notre dossier. Et donc, ce matin, on nous a même demandé d'arrêter le chahut parce que on était assez nombreux pour manifester notre joie. Et l'autre dimension, c'est que cette création, elle n'est pas gratuite. C'est un art qui est au service de l'homme et du bonheur, du bien-être, du confort de l'homme. Certes, c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine dans lequel des gens, aujourd'hui, continuent à vivre, à prier, à travailler. À travers la diversité des bâtiments sur cette liste, C'est la dimension qu'on a voulu montrer, c'est-à-dire la diversité de sa création et puis comment les gens se l'appropriaient et en apprécient toute la richesse, toute la portée.
Interview signée Sarah Maquet. En vous rendant sur notre site internet franceculture.fr, vous trouverez en une un dossier spécial sur ce classement de l'œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'humanité avec des photos, des vidéos et des témoignages. La météo de demain lundi sera encore très ensoleillée. Quelques cumulus au réveil dans le Nord-Pas-de-Calais. Les températures seront estivales, 23 à Lille, 26 à Ajaccio, 27 à Bordeaux.